un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. L'apôtre Paul reprocha aux chrétiens de son époque leur besoin continuel de recevoir les premiers rudiments des oracles de Dieu, qui sont la base même des doctrines chrétiennes. Paul déplore qu'ils aient toujours besoin de lait plutôt que d'une nourriture solide. Pourquoi ces chrétiens étaient-ils si immatures? Par manque d'expérience de la parole de justice. La nourriture solide est réservée à ceux dont le jugement est exercé par l'habitude de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'apôtre Paul poursuit en écrivant « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement, sans remettre de nouveau en question la base de l'enseignement, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Dans ce passage, l'apôtre Paul dévoile les doctrines fondamentales. Il y en a six qui sont le soutien de l'enseignement chrétien. Ce sont des doctrines que les disciples du Christ devaient avoir compris depuis longtemps et qu'ils ne devaient plus remettre en question. Ce matin, nous allons examiner ces doctrines fondamentales. Il s'agit en premier lieu du renoncement aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes, c'est se repentir de les avoir accomplies, de les avoir pratiquées. Que sont les œuvres mortes, me demanderez-vous? Les œuvres mortes sont tout simplement le péché qui conduit à la mort. En effet, Paul a écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il s'agit donc bien de la mort éternelle. Chaque être humain, à l'exception du Christ bien entendu, a péché. L'apôtre Paul ajoute « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous les hommes ont donc vécu en opposition au mode de vie enseigné par la parole de Dieu. » En accomplissant les œuvres de la chair, l'homme est passible de la colère de Dieu, c'est ce qu'explique l'apôtre Paul. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le mode de vie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce prince de la puissance de l'air est Satan. C'est lui, cet esprit qui agit dans les hommes qui désobéissent à Dieu. L'apôtre Paul poursuit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tous, nous avons accompli ce qui conduit à la mort éternelle, ce qui est passible de la colère de Dieu. Et pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, l'apôtre Paul demande à ceux qui s'en sont repentis sincèrement « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » C'est comme si nous étions dans une cellule pour condamner à mort, dans l'attente de l'exécution que nous avons méritée en vivant dans le péché, dans la transgression de la loi. Toutefois, dans sa grande bonté, Dieu a prévu un plan grandiose pour éviter cette peine ultime. Il nous a donné le moyen d'éviter l'exécution. Comment? L'apôtre Jean déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en son sacrifice et en son enseignement, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'apôtre Paul a écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Et l'apôtre Pierre ajoute « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Jésus-Christ a abandonné sa divinité et il a vécu sur terre une vie exempte de tout péché. Il a payé l'amende de la mort à notre place, ouvrant ainsi pour l'humanité la porte de l'éternité. Non seulement l'homme doit admettre et reconnaître ce sacrifice, mais il doit prouver à Dieu qu'il ne veut plus continuer à vivre dans le péché. Il doit procéder à un changement complet, qui est appelé repentance dans la Bible. De quoi devons-nous nous repentir? Tout simplement du péché. Et qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression des lois divines. La repentance est un changement de direction dans la vie. Lorsque nous nous repentons, Lorsque nous adoptons un mode de vie conforme aux instructions divines, nous sommes pardonnés et notre conscience est purifiée. L'apôtre Paul déclare « Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ?» C'est tellement simple et tellement logique. Aucune œuvre humaine ne peut amener le pardon. Même les lois sacrificielles de l'Ancien Testament ne le pouvaient pas. Elles n'étaient qu'une préfiguration du sacrifice du Christ. Et l'apôtre en dit « C'est une figure pour le temps actuel ». C'est une image qui se rapporte au temps présent, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Tous ces sacrifices ne pouvaient procurer le pardon des péchés, ni procurer la vie éternelle. Ces sacrifices étaient une préfiguration du grand sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque ce grand sacrifice fut accompli, les rites sacrificiels furent écartés. Seule une personne repentante peut obtenir le pardon divin. Dieu apprécie les humbles, ceux qui ont l'esprit contrit et qui tremblent devant sa parole. La véritable repentance est un don de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on forge en soi. Dieu demande à ses ministres de redresser avec douceur les adversaires dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. L'apôtre Paul ajoute « La bonté de Dieu te pousse à la repentance ». Et dans le livre des Actes, nous lisons « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ». La véritable repentance est un engagement total. C'est franchir un point de non-retour. C'est le premier pas vers l'éternité. C'est la première des doctrines chrétiennes fondamentales. La deuxième doctrine fondamentale mentionnée par l'apôtre Paul est la foi en Dieu. Personne ne peut obtenir le salut sans la foi. Abraham est appelé le père des fidèles ou de ceux qui ont la foi. Son exemple, ainsi que celui de tant d'autres, nous aide à comprendre ce qu'est la foi véritable et profonde. Abraham était sans enfant, à l'exception de son fils illégitime Ismaël. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Cependant, l'Éternel lui promit un fils. Quelle fut l'attitude de ce patriarche à l'annonce de cette nouvelle? Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi est donc la pleine conviction que Dieu peut accomplir ses promesses. L'apôtre Paul l'a défini en ces termes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible en français courant traduit ce passage comme suit « Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » La promesse que Dieu avait faite à Abraham n'était pas pour lui des paroles en l'air. Il avait la certitude qu'il verrait son accomplissement. Il avait la certitude, la ferme assurance que cette promesse deviendrait réalité. L'apôtre Paul ajoute « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Noé eut lui aussi foi en Dieu. Lisons ce que l'apôtre Paul écrit à son sujet. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Si vous voulez découvrir d'autres exemples de foi, lisez le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Vous y découvrirez des patriarches, des prophètes, des rois, des juges repentants, ainsi qu'une prostituée qui fut un modèle de foi vivante. L'apôtre Paul, lui aussi, nous laisse un tel exemple. Il se trouva sur un navire dans une tempête si violente que ses compagnons de voyage et l'équipage perdirent toute espérance d'être sauvés. C'est alors que Paul leur annonça, « Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a été dit. » Malheureusement, Adam et Ève eurent peu de foi en Dieu. Ils ne crurent pas ce qu'il leur avait dit. Par contre, ils crurent les paroles de celui qui séduit toute la terre, Satan. C'est encore ce que nous trouvons aujourd'hui dans un monde qui s'obstine à croire le contraire de ce que le Christ a affirmé. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu, dans la famille divine, sans la foi. Paul déclare avoir annoncé aux Juifs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a ajouté, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompensera, il exaucera ceux qui croient en son existence et qui ont non seulement foi en lui, mais aussi dans le sacrifice du Christ. L'apôtre Paul écrit ce qui suit sur la foi dans le sacrifice du Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Croire dans le sang du Christ, ce sang qui nous justifie, croire dans son sacrifice implique croire dans ses paroles, dans son enseignement et croire au véritable message de l'Évangile qui concerne le royaume et non la personne même de Jésus. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Si une personne entend le véritable évangile du royaume de Dieu, si elle se repent, si elle est baptisée et reçoit le don du Saint-Esprit, Dieu lui accorde alors la foi de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, et cette foi, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » En établissant la liste des qualités du fruit de l'Esprit, l'apôtre Paul écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » Dans ce passage, le mot « fidélité » est traduit du grec « pistis », qui signifie « la foi ». C'est un principe vivant, divinement implanté, comme le confirme le passage suivant, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre que cette foi qui vient de Dieu, que l'on reçoit lors du don du Saint-Esprit, permet d'avoir foi en Christ, en son sacrifice, en son enseignement. En résumé, comment peut-on avoir la foi en Dieu, cette foi qui fut celle d'Abraham, qui ne douta point de la promesse de Dieu, cette foi qui le fortifia, qui lui procura la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est tout simple. Il faut se repentir sincèrement d'avoir transgressé la loi. Il faut ensuite être baptisé, autrement dit immergé dans l'eau comme nous le verrons la semaine prochaine, et recevoir le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous obtiendrons la foi indispensable au salut ultime, qui sera la vie éternelle dans le royaume de Dieu.